With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hello, je suis Léa.
Et moi Mathilde.
On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut ça va by Take Care.
Je suis psychologue clinicienne.
Et moi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question comment ça va
et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Salut ça va. Je suis très bien accompagnée comme toujours par Mathilde, mon acolyte.
Toujours là.
Toujours là. Et aujourd'hui on reçoit quelqu'un de cher à notre cœur, proche et en même temps qui nous inspire par beaucoup de ces différentes casquettes de vie. C'est Paola, bienvenue Paola dans notre podcast.
Merci.
Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu dirais de toi ?
Ben, je m'appelle Paola, j'ai bientôt 30 ans, ouais.
Cap.
J'ai du mal à le dire d'ailleurs, je suis restée encore Keblo à 28 ans et je suis professeure de yoga depuis 7 ans, voilà. J'habite à Montpellier, je donne les cours ici.
C'est vrai que ça fait un petit moment, 7 ans c'est un cycle.
Ouais.
Sacré cycle. T'étais destinée à autre chose, enfin destinée, genre t'étais destinée à autre chose. Non, t'avais un
déterminisme.
t'as fait des études en tout cas,
oui.
Il me semble, dans un autre domaine. C'est quoi ton parcours scolaire ? Enfin, pourquoi tu t'es mis là-dedans ?
Qu'est-ce qui t'a mis dans le yoga ?
Ben non, mais même avant, moi ça m'intéresse. Avant, pourquoi est-ce que t'étais pas dans le yoga justement avant ?
Ah, c'est pas. Ok. Ouais.
J'ai fait j'ai passé le bac, ES, j'étais vraiment une élève très très moyenne, voire pas du tout intéressée par l'école, et surtout tout le temps en échec, puisque j'étais très nulle dans toutes les matières maths et scientifiques, donc je vivais vraiment comme un échec, comme beaucoup d'étudiants je pense. J'ai poursuivi après en technique c'était un IUT Tech de co, donc c'était quelque chose en 2 ans. Je me souviens même que moi-même, j'étais pas décidée parce que mon premier choix, c'était Tech de Co. Le deuxième, c'était Hippocagne, quoi, lettres.
Ah ouais,
donc rien à voir.
Deux mondes.
J'étais pas du tout décidée. Je savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Je sais que j'avais beaucoup envie de m'amuser, surtout, et envie d'avoir mon indépendance. Mmh. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et j'ai continué par un master à l'IAE de Montpellier. Et pendant ces 3 ans, jusqu'à un master 2, je suis partie en Erasmus, en Espagne. C'était un master sur le web marketing. Donc c'était les premiers à l'époque. Il n'y avait pas trop d'école digitale et tout, ça n'existait pas. Il n'y avait que cette formation. Et comme c'était réputé pour être l'avenir,
ouais.
Bah voilà, bon. Je vais prendre ce chemin-là. Ouais. Et beaucoup influencé évidemment aussi par mes parents.
Ouais.
Les études,
ouais, c'est vrai
beaucoup
que...
par mes parents.
Donc études plutôt longues, hein. 5 ans d'études.
Études plutôt longues.
Ouais.
Et... Ah, tu les as faites jusqu'au bout.
Oui.
Ah ouais,
ok.
T'es diplômée.
Ouais.
Et comment est-ce qu'on passe d'un milieu comme marketing digital, voilà, à professeur de yoga ? Comment t'as connu le yoga ?
Alors les premiers cours que j'ai faits, c'était dans une salle de sport et c'était pas du tout. Enfin, j'y suis pas allée avec une intention particulière.
Mm-hmm.
Juste j'étais là, il y avait des cours, donc je les ai faits. C'était cool, mais sans plus. Et suite à mes études, il y avait un stage d'études quoi, en master 2. Et en web marketing, malheureusement, à l'époque, donc c'était les premières formations comme ça. Mais c'était difficile de trouver un stage qui soit assez intéressant et assez profond, on va dire, dans la matière du digital. Donc, il fallait monter à Paris. Donc, ce que j'ai fait. Et j'ai découvert un vrai monde à Paris autour du digital. Et j'ai fait une carrière là-dedans. Donc... aujourd'hui, c'est très répandu. À l'époque, une fois de plus, c'était pas du tout répandu. On appelait ça des consultants. Donc, j'étais consultante digitale. Donc, j'accompagnais des projets dans des grandes sociétés sur des projets qui étaient stratégiques et humains, entre parenthèses. Parce qu'il y avait quand même de l'humain, mais c'était entre parenthèses. Donc, je faisais beaucoup de boîtes différentes. C'était des grosses sociétés, notamment beaucoup autour de tout ce qui est automobile, tout ce qui est map, etc. Donc, c'était Peugeot, Citroën... ou ouais. Renault, ou Mappy. Enfin, ça restait vraiment dans cette thématique. De toute façon, quand tu rentres dans une thématique, dans ce genre de boulot,
ouais.
On te remet sur les mêmes sociétés. Et je changeais, allez, tous les 6 mois de mission, puisque c'était des missions stratégiques. Donc, comment vendre une voiture en ligne,
ouais.
Neuve, sacré
c'est fou sacré de challenge. Savoir là-dedans.
Mais oui, mais je savais pas.
De t'entendre raconter, ça me paraît.
Ouais, ouais. C'est un truc de c'est un truc
loin.
De... Ouais. C'était aussi, tu vois, par exemple, pouvoir ouvrir ta voiture avec ton téléphone portable. Aujourd'hui, mm-hmm. ça paraît, voilà, ça paraît actuel et ça existe et tout, mais à l'époque, pas du tout. Donc ça, c'était la première partie. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et en fait, en accompagnant mes études, enfin mon stage, et puis après cette rentrée dans la vie professionnelle, j'avais besoin de quelque chose qui m'accompagne. Et donc j'ai commencé le yoga. Mais je vais dire, j'ai commencé le yoga sans enjeu particulier. L'enjeu, il est venu à un moment donné où il y a eu vraiment un moment où j'ai basculé entre ma vie professionnelle et après le yoga. Et c'est là que le yoga a vraiment eu un enjeu particulier dans ma vie.
Ouais. T'avais une image du yoga avant de te lancer ?
Pas du tout. Je pense que c'était le tout début de ce qu'on voit aujourd'hui, ouais. de l'image du yoga.
Ouais.
C'était vraiment le tout
début. Mais t'as commencé le yoga parce que tu avais envie de faire une activité physique, parce que t'as envie de te déstresser, parce que t'avais ou juste, t'as commencé le yoga, quoi.
Alors, en fait, quand je l'ai découvert, c'était juste comme ça.
Ok.
Vraiment, quand je l'ai commencé, pour moi, au moment de début, et à l'époque, on n'appelait pas ça burn-out, en fait, ça n'existait pas du tout. C'était des prémices, mais je pense que j'ai fini, je ne l'ai pas redoublé, j'ai toujours été moyenne, etc. Mais je suis arrivée à ce stage, j'ai commencé très vite dans la vie active, dans la vie parisienne. Moi qui viens de Montpellier, je me faisais vraiment une image de la personne que je voulais être. Je me disais, voilà, je vais être indépendante. Je vous ai parlé de l'idée d'indépendance. Je vais pouvoir rentrer dans cette vie professionnelle, kiffer ma vie. C'est à Paris en plus, donc Paris, c'est quand même quelque chose pour moi qui venais de Montpellier. C'était un sacré challenge. Et en fait, le fait de changer, d'être toujours en suradaptation dans ce métier du digital, de changer d'équipe tout le temps. En plus, j'avais beaucoup de pression parce que quand t'es invité par Renault, ça fait un an qu'ils essayent de sortir un site web avec une équipe de 10 personnes pour vendre la voiture en ligne, mais qu'il leur reste que 2 mois et qu'ils n'ont pas d'autre solution que d'appeler quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, dont moi. qui était très jeune, t'as de la pression. En plus, j'étais formée dans une méthode qu'on appelle méthode agile. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens qui travaillent dans le digital. C'était aussi les prémices. Aujourd'hui, partout est utilisée la méthode agile. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit contexte. Donc c'était beaucoup de pression au quotidien. En plus, pour quelqu'un comme moi qui est assez méditerranéenne, je faisais 3 heures de transport par jour, quoi. À Paris, la vie est différente.
Ouais, bien sûr.
Je changeais tout le temps d'endroit. Et tout le temps d'équipe, même si j'adore l'être humain et que j'ai adoré mes rencontres dans le monde de l'entreprise parce qu'il y a il y avait des vrais talents en entreprise. C'est dommage que les entreprises en prennent pas plus soin que ça. Il y a des vrais talents. Et un jour, je suis partie en vacances avec mon copain et j'avais 3 semaines devant moi. On avait pris un gros voyage au Maroc et tout. Et j'ai fait une indigestion une indigestion, quoi, ça dure 3 jours, quoi. Et en fait, ça a duré 4 mois. Et là, en fait, c'est ce qu'on peut appeler je le dis maintenant avec beaucoup de recul, mais c'était un burn-out, en fait. Émotionnellement, j'avais plus du tout de force. En fait, ça a commencé avec cette intoxication pendant 3 jours. Et en fait, l'intoxication s'est transformée en angoisses qui m'ont bloquée, paralysée pendant 4 mois. Je veux dire, dans ma vie, quoi, j'étais bloquée. Alors ça arrive à beaucoup de gens, hein. Mais quand ça t'arrive, quoi, t'as l'impression déjà que ça arrive qu'à toi. Et puis que tu vas mourir, quoi. Ouais. Voilà, la seule échappée, c'est ça.
Et de suite, t'as fait le lien avec ton côté pro ou pas forcément de suite ?
Pas forcément de suite. Au début, je me suis dit, ok, déjà, tu sais pas ce qui t'arrive. T'as même pas le temps de te poser la question sur la cause. Non, je me disais, parce que en plus, c'était un voyage au Maroc et c'était la 4e fois que j'y allais. Je le faisais découvrir à mon copain. J'adore ce pays. Je me souviens très bien, hein, j'avais préparé un road trip, on bougeait tous les 2 jours et tout. Je me souviens être dans la voiture pour quand même faire le road trip, quoi. Puis vomir dedans. Je voyais mon mec, je me disais, putain, je lui gâche les vacances, le pauvre. Et en fait, au bout de 10 jours de road trip, voilà, je pouvais plus boire d'eau, quoi. Et je suis déjà assez mince de corpulence, donc c'était pas possible de continuer le voyage. Donc j'ai été rapatriée. Sauf qu'au Maroc, tu vis un trauma aussi. Quand c'est physique, tu peux vivre un trauma. Ça peut s'inscrire comme un trauma. Ouais, j'ai vécu un trauma, en fait. Et pareil, ça, je le dis avec beaucoup de recul. Hein. Sur le moment, pas du tout calculé, j'avais juste l'impression d'être malade. Mais là-bas, il y a des médecins qui sont venus, on m'a fait des piqûres, j'ai pris des antibiotiques, j'étais quelqu'un qui prenait pas de médicaments. Donc déjà, là-bas, pour essayer de tenir sur le voyage, je me suis retrouvée dans une clinique au Maroc avec le... l'infirmier qui fait tomber la seringue par terre, qui me regarde en mode on va le faire, et je lui ai fait non on va changer la seringue, voilà, ouais. Enfin, on était un peu dépourvus et déboussolés avec lui de ce qui m'arrivait. Moi, j'avais pas du tout le temps de réfléchir, donc je suis revenue Déjà, le moment où j'étais dans l'avion du retour, j'ai eu un espèce de soulagement. Donc, il y avait bien une angoisse quelque part. Je te regarde, Mathilde, mais...
C'est drôle, je suis en séance.
je suis toute oui.
Et en fait, en rentrant à Paris, j'ai décidé donc d'aller aux urgences tout de suite pour faire les tests, en fait. Parce que bah, souvent, on se dit, il y a une bactérie, il y a quelque chose. Et en fait, bah, y avait déjà, bon, l'hôpital à Paris, c'est quand même aussi... une expérience,
carrément une aventure,
une sacrée aventure. Et d'ailleurs, bravo à tous les gens qui y travaillent, ça doit pas être facile. Et donc, bah, ils ont rien vu, mais en même temps, quand tu prends autant d'antibiotiques d'un coup, t'as pas été habitué, je veux dire, tu peux rien voir, quoi.
Oui, non,
tout est.
Mais en fait, t'as eu une purge, quoi.
Exactement.
Ouais, la javel.
Exactement.
Tu as été purgé, quoi.
Exactement. Okay. Donc là, ton système digestif en prend un coup aussi. Donc je suis repartie bredouille, en fait. On m'a dit, bah non, il n'y a rien, vous inquiétez pas. Mais je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas intérieurement, que ce n'était pas OK. Je ne me levais pas le matin avec la pêche. Puis je suis quand même de nature assez dynamique.
Et donc, bon, tu te sentais triste, tu te sentais... Il y avait autre chose ou juste tu n'avais plus d'énergie?
À ce moment-là, je me sentais dans le combat, d'être dans la survie et de comprendre. Tu vois, déjà de rentrer chez moi. Je prenais genre moment après moment, tu vois, rentrer chez moi. Aller aux urgences, voir ce qui se passe, faire les examens. Ok, il n'y a rien. Ok, je rentre. Qu'est-ce que je fais? J'étais plus dans le truc de... faut que je passe les moments et que je vois ce qui se passe, en fait.
T'avais besoin de comprendre.
J'avais besoin de comprendre. Exactement. Merci. Ouais, j'avais besoin de comprendre. Et en fait, j'ai rien compris du tout, parce que les jours qui s'en sont suivis et les mois qui s'en sont suivis, en fait, déjà, mon système digestif ne répondait plus. Donc, il était aux abonnés absents. Je passais par des phases. En fait, je ne pouvais plus rien avaler. Je ne pouvais plus rien digérer. Ça en vient à un terme que... Tu sors dehors, tu calcules, tu te dis, bon, si je sors dehors et que j'ai envie d'aller aux toilettes, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire dessus, quoi, vraiment. T'en es là, quoi, tu vois. Donc, t'as des angoisses qui sont créées par ton état. Là, tu te dis, il y a un problème. Donc, j'arrivais plus à prendre le métro. D'ailleurs, je m'évanouissais à ce moment-là, dès que je prenais le métro. Je me souviens encore de mes collègues, là où j'étais à l'époque, ils ont été super adorables. Parce que par contre, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. J'intériorise pas, je dis, bah, ça va pas, quoi. Ça va pas, je pleure, enfin voilà. J'ai jamais été dans l'intériorisation à fond, au contraire. Donc tout le monde savait qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais tout le monde était un petit peu sans solution, déboussolé un petit peu. Donc je me souviens que ma sœur est venue à cette époque-là, et à tel point que je me souviens même appeler des médecins qui viennent à la maison, parce que je me sens pas bien, j'ai le cœur qui bat.
Mais tu faisais des crises d'angoisse?
Je pense que c'était pas encore des crises d'angoisse, parce que j'étais dans l'action, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, parce que j'ai fait des crises d'angoisse un an après. En fait, j'étais pas dans des moments où j'étais bien. En fait, j'étais tout le temps mal.
Ouais, mais ça ressemble beaucoup à de l'angoisse. Le cœur qui bat,
oui, oui.
Le fait d'avoir des vertiges, tout ça, c'est...
Par contre, c'était de l'angoisse. C'est pour ça que je disais burn-out, parce que pour moi, après les crises d'angoisse... Enfin, pour moi, elles sont venues un an après, tu vois. Et ces crises d'angoisse, elles étaient dans des moments où je me sentais bien. Et là, j'avais une crise d'angoisse. Et là, vraiment, j'avais l'impression de mourir. Là, j'étais mal tout le temps. C'est-à-dire, je me levais, je pleurais. Alors, c'est peut-être une crise d'angoisse en continu.
Non, il n'y avait peut-être pas que ça, hein,
tu vois.
Mais quand il y a des crises, en général, la crise, c'est quand même un pic, hein, c'est le haut de l'anxiété. Mais si dans l'échelle de l'anxiété, tu étais quand même. L'échelle de 0 à 100, tu étais quand même à 90 tout le temps.
Ouais.
La crise, c'est à 100, mais quand tu es à 90, tu es quand même très haut.
Ouais.
Mais en tout cas, quand tu me dis que tu as le cœur qui bat, le fait que tu faisais. Du coup, j'entends des vertiges, que tu évitais certaines situations par peur qu'il arrive quelque chose, c'est de l'anticipation anxieuse. Donc tout ça, c'est. C'est le gros jargon de l'anxiété, de l'angoisse, etc.
Mais malgré tout, tu continues à aller bosser
Alors, je continue à aller bosser. En fait, mon quotidien, en 4 mois, il est très, très compliqué. Je suis arrêtée pendant presque un mois à mon retour. Après, je continue à aller au boulot. Mais par exemple, je fais 2 jours et puis je ne peux plus y aller. Donc, en fait, c'est vraiment le côté... Et parfois, quand j'ai lu certaines choses sur le burn-out après, le côté d'être bloquée, quoi. Je ouvre les yeux le matin, mais mon corps ne veut pas se mettre en action. Tu vois, donc tu deviens là, c'est ton corps qui parle, il y a plus même ta tête, ça a envie de réfléchir. C'est pour ça que j'étais pas du tout dans les solutions, j'étais juste là-dedans. Donc ma sœur est venue une fois, vraiment il y a eu cette phrase de je comprends pas Paula, je te reconnais pas, mais il y a quelque chose qui te pèse, enfin tout le monde essayait de chercher une explication et en réalité je savais pas quoi répondre.
Tu vois,
à ce moment-là, tu sais pas.
Même pas vrai, t'es en off, en fait.
Ouais.
T'étais en pilote automatique.
Exactement.
Sur le mode survie.
Sur le mode survie, exactement.
Oui,
exactement.
Et puis on a souvent tendance à chercher des causes organiques aussi, tu sais, en priorité, parce que c'est ce qui nous saute aux yeux, alors que parfois, en fait, quand c'est psychologique, physique, même si ça se retraduit dans le corps, c'est invisible en fait.
Ouais. Et surtout quand c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, je sais même pas si le burn-out est considéré comme maladie professionnelle encore. Je crois pas.
Je crois que ça s'est passé.
J'ai vu qu'il y avait certains, justement, candidats à la présidentielle qui le revendiquaient comme.
Oui, voilà, c'est pour ça que je l'ai vu.
Voilà. non, justement, je crois que c'est pas encore passé. Mais je veux dire, c'est comme un dépressif à qui je dis, mais allez. Bouge-toi le cul un peu, tu vois. Je veux dire,
complètement.
Donc, quelqu'un qui est en burn-out, mais ça, ce n'est pas du tout malveillant souvent de la part de l'entourage, c'est juste inconnu. Et quand on essaye de comprendre et que toi-même t'es déjà en off, en fait, c'est court-circuit. Enfin, je veux dire, tu devais être dans une situation où, même si t'avais un tempérament de base très dynamique et dans l'action, etc., il y a un moment donné, ça fonctionne plus.
Ouais.
Et comment t'as changé d'état, on va dire, à quel moment est-ce que tu t'es dit, tu as vu une lueur d'espoir, une porte de sortie, quelque chose de nouveau?
Ah, en fait, y a vraiment un moment où quand il y a un des médecins qui est venu à la maison et qui m'a prescrit en fait, du spasfon et rien de plus, et là je me suis dit, bon, ça veut dire que soit je m'adresse pas à la bonne personne, soit c'est que c'est pas encore, enfin il y a quelque chose quoi. De ma génération, j'étais aussi la première à travailler, donc je voyais que c'était pas aussi présent chez mes amis. Et ça c'est quand même pas rien parce que tu peux pas échanger. Mes amis commençaient pas à bosser et tout, j'étais une des premières à bosser, donc c'est vrai que je voyais pas trop ça. Aujourd'hui, il t'arrive ça, je pense que t'as facilement de renseignements, d'informations. C'était le tout début quoi, voilà. De cette un peu, je pense, désillusion des personnes qui font des études longues et qui arrivent dans le monde de l'entreprise. Un jour, je me suis dit, j'ai trouvé un cours de yoga, c'était estival, donc c'était au mois d'août, un mois après que je sois arrêtée. Et je me suis dit, ok, c'est à 5 arrêts de bus de chez toi, tu ne mets pas de pression, tu vas prendre le bus, tu vas aller au cours, et si jamais, sur l'allée, c'est tout petit hein, ce dont je parle, mais c'était très grand pour moi à l'époque, à ce moment-là.
Mais oui, mais c'est vrai que ça commence comme ça. Hein.
Et je me suis dit, c'est pas grave, tu pourras faire demi-tour et tu avanceras comme ça, jour après jour. Et donc tous les jours, j'y suis allée pendant un mois. Et des fois, j'y suis pas allée. Mais je me souviens du premier cours, je faisais presque rien. J'ai vomi la première fois où vraiment j'ai pris le cours. Mais chaque jour, il y avait quelque chose de mieux. Je vous le dis honnêtement, les premières séances de yoga que j'ai fait dans cet état-là, c'était pas du tout « Ah tiens, je me fais du bien ». Je cherchais cet équilibre entre m'accrocher et lâcher. Ouais. Voilà, en fait. C'était
Oui, et puis du
ça.
Coup, l'objectif d'aller au yoga, ça t'a refait sortir, ça refait... Et puis, il y a surtout aussi, de ce que j'entends, c'est que le fait d'avoir cet objectif, sans en rendre objectif, parce que finalement, t'étais quand même pas dans l'exigence absolue avec toi, de te dire « il faut le faire », et voilà, donc t'étais plutôt indulgente avec ton état, mais le fait est d'être allée au yoga, du coup, ça t'a fait ressortir, enfin, pour reprendre le bus, donc reprendre les transports, et du coup, ça t'a fait refaire des choses que t'évitais de faire, et que du coup, tu as répété tous les jours, et... On sait que plus on se réexpose à des situations qu'on évitait, plus on réapprend aussi l'idée que ça peut bien se passer.
Oui, mais t'avais vachement de ressources quand même en
ouais,
toi.
Ouais, mais clairement.
Parce que tu vois, t'as fait ça toute seule. Tu t'es fait une TCC exposition toi-même.
Tu t'es auto-exposée, mais de toute façon, tu le dis, au départ, ça paraît petit, et aujourd'hui, quand t'en parles, tu dois te dire MDR, 5 arrêts de bus. Et en même temps, quand on le vit et quand on est sur le moment, c'est énorme. Et franchement, les premiers pas, c'est les plus durs.
Ouais, c'est
les premières marches, elles sont dures. Franchement, elles sont dures. Mm-hmm. Mais une fois qu'elles sont montées, tu les redescends pas, quoi, en général.
Non, et puis... ouais, exactement. C'était très dur. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'enjeu. Mais parce qu'en fait, à ce moment-là, tu peux même pas créer un enjeu sur ce que tu fais. Parce que t'es tellement amenuisé physiquement. Tu contrôles tellement plus ni ton système digestif, ni ce que tu... Mm-hmm. Ni comment tu... tu respires, t'as la respiration souvent bloquée, t'as pas les idées claires et tout, tu sais pas qui tu es. Et ça fait vraiment ces questions qui t'arrivent dans n'importe quel trauma. Qui je suis? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Voilà, toutes ces questions que tu te poses après n'importe quel trauma.
Mais l'anxiété peut être dépersonnalisante hein, quand elle arrive à des niveaux... Et puis elle a des conséquences, tu le dis très bien, hein, sur le système digestif, sur la vision, sur le cœur, sur l'oxygène, sur...
C'est en train d'être prouvé, hein. Je pense qu'on pourra le mettre en ressource de ce podcast, mais il y a des travaux qui sont faits, notamment au Canada, aux États-Unis, sur l'impact du stress sur l'organisme, mais de façon considérable. Mais
au-delà du cortisol qui avait un impact sur le cerveau et le fonctionnement, en fait, quand on est en stress et quand on est en angoisse, en fait, quand on est stressé, c'est qu'on estime qu'il y a un danger. Donc, en fait, on prépare notre corps soit à attaquer, soit à fuir. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on doit attaquer ou fuir ? On ingère des grandes quantités d'air. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a cette espèce d'hyperventilation. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est pourquoi ? C'est pour nourrir les muscles. Donc c'est pour ça qu'on est en tension, pour rapporter de l'oxygène aux muscles. Du coup, le cœur se met à battre plus vite pour acheminer cet oxygène-là. Sauf qu'en général, c'est rare quand on se met, enfin que quand on stresse ou que quand on soit en angoisse, on se mette à aller courir en footing, tu vois, ou réellement à fuir ou réellement à attaquer. On est plutôt statique dans ces moments-là. Du coup, il y a trop d'oxygène. Et du coup, c'est ce qui fait notamment tout ce qui est vertige, etc. Et puis, vu que toute l'énergie est concentrée dans les muscles, eh ben, elle n'est plus du tout concentrée dans le système digestif. C'est ce qui fait que ça vient dérégler tout le côté digestif de ton corps, en fait. Ouais. Et donc, vive les émotions, j'ai envie de vous dire.
Oui.
Les émotions ont un impact sur le corps et c'est physiologique.
Ouais, non, mais c'est pour ça que, heureusement qu'on en parle. Et je pense qu'à l'époque, comme tu dis, c'était tellement pas le sujet. Enfin, je veux dire, même la santé mentale, je pense que c'était un non-sujet. Enfin,
c'était tabou.
C'était un non-sujet. Et puis, on sent que les personnes étaient désarmées, quoi. Quand tu me dis, tu disais, OK, oui, j'ai eu mal au ventre. OK, mais là, ça dure depuis 3 mois. C'est bizarre. Enfin, il y a quelque chose. Et on sentait que la réponse, c'était bon. Oui, ben peut-être manger différemment. OK, manger différemment. Ouais, il y a peut-être autre chose. Et donc, c'est vrai que, voilà, après ces petites victoires, ça m'a aidé à y retourner plus souvent et surtout à reprendre connexion avec mon corps. Parce que du coup, j'avais plus de notion. Là, dans le yoga, ne serait-ce que faire une posture pendant la séance, ça me permettait de me concentrer dessus. Et comme j'avais rien d'autre dans la tête à ce moment-là que ce poids que j'avais à l'intérieur, voilà, ça permet de mettre ta conscience ailleurs.
Et à quel moment est-ce que tu es passé de la pratique du yoga dans ses débuts et cette période particulière de ta vie à je décide d'en faire mon métier?
Après cette période-là, il s'en est suivi quand même une période de questionnement et de remise en question sur ma vie, sur mes choix, etc. Je pense que de nature, je suis une personne où quand j'ai une idée et que ça se matérialise à l'intérieur de moi, ça ne dure pas 1000 ans. L'action, elle se prépare très rapidement derrière. Et ça s'est passé très rapidement. Un jour, je me suis levée, j'étais appelée à une mission à la Défense. C'était le mois de... Donc, c'était presque un an ou un an et demi après, je ne sais plus. Il faisait chaud, quoi. Je me souviens qu'il faisait chaud. Je suis arrivée dans le métro avec des gens habillés très chaudement alors qu'il faisait très chaud. Donc là, déjà, un non-sens pour moi. Je me disais, mon Dieu, tous ces gens habillés en costard, est-ce que tout ça est normal dans un métro très froid où on sort et il fait très chaud? Bref, j'arrive dans cet immeuble. J'avais déjà fait 2 semaines. Hein. Toute la mission était en anglais. Pour tout ce qui était le sujet, c'était la sécurisation des données pour un grand du système bancaire. Donc il y a du sens, mais en même temps, c'est des choses qui avancent très lentement. Donc j'avance, je rentre dans cet immeuble, j'appuie sur le bouton de mon étage qui était donc le 25e étage. Donc là, un deuxième non-sens. Je veux dire, mon cerveau a juste fait des plus. Je dis, je monte au 25e étage, c'est quand même incroyable. Mais les oreilles se bouchent et tout hein, quand tu montes à un 25e étage.
Ouais, c'est vrai.
Je veux dire, voilà, bon. T'arrives en haut et tu vas à la machine à café comme tous les matins. Ce qui se passe dans un monde professionnel d'entreprise, je veux dire un petit peu à l'ancienne. Et là, je me suis retrouvée à regarder la fenêtre où il faisait vraiment pas beau, avec tous ces humains en bas à la Défense qui sortaient du métro comme une fourmilière. Et là, je me suis dit, vraiment, il y a eu cette, ce que tu as appelé dépersonnalisation tout à l'heure, Mathilde, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Les gens sont super sympas et en fait, je suis là pour eux. Je suis là pour les équipes, en fait. C'était la seule raison de ma présence. Mais le reste, et jamais je m'étais posé cette question de toute ma vie. Et là, le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec l'entreprise dans laquelle j'étais, que je remercie énormément. Et je leur ai dit, voilà, je mets fin au contrat, je rentre demain à Montpellier. C'est fini.
Ah ouais.
Voilà, du jour au lendemain.
Oui, donc l'action n'a pas, été longue.
Non, oui, c'est clair, mais t'as eu un déclic, en fait.
C'était un énorme déclic.
T'as eu, ouais, ça agit comme un...
Énorme déclic.
Tu t'es dit, qu'est-ce que je fous là, quoi?
Qu'est-ce que je fous là? Et j'ai plus envie de ça, et en fait... T'as le droit de partir. Personne ne t'en empêche là. Tu peux prendre la porte et t'en aller.
Ouais.
Il y aura des conséquences. Il faudra les assumer. Mais tu peux le faire.
Oui. Vive les ressources. vive les bases solides quand même. Parce que bon, on se connaît personnellement, donc je sais quand même que tu as grandi dans une famille aimante et voilà, et vive ça. Parce que
Bah, quand tu grandis avec l'idée que tu pourras faire n'importe quoi de ta vie, tu as un filet de sécurité et tu auras toujours des gens qui seront là pour toi, c'est une liberté de dingue.
Ouais, clairement.
Ouais. C'est une liberté de dingue. Et puis tu vois, tout de suite, ça a été Montpellier. Je me suis dit, c'est le retour à la maison. Et j'avais déjà, bien sûr, il y avait eu des prémices et je me disais, c'est vraiment quelque chose qui me... Même si je déteste cette phrase aujourd'hui, du yoga me sauve, parce qu'en fait, c'est pas le yoga.
Ah non, c'est toi.
C'est toi.
Bah oui.
Complètement.
Et c'est ce que t'en fais, en fait.
Bien sûr.
Et à ce moment-là, ça aurait pu être de la boxe, ça aurait pu être de la jardinerie, ça aurait pu être n'importe quoi. Juste, ça a bien matché avec cet état-là. Et même si je respecte le yoga, namasté. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà porté un petit peu avant de prendre cette décision. Ça a été vraiment un chemin. Mais c'est ce moment-là où l'action elle a été prise, où mon copain était un petit peu surpris. Puisqu'on vivait quand même ensemble à Paris.
Ah bon.
mais il le sentait venir parce que ça, voilà, ça, ça sentait. Et puis donc je suis rentrée. J'ai retrouvé le même travail que je faisais à Paris pour revenir ici. Voilà, j'ai pris du temps pour savoir comment, où est-ce que j'allais me former, qu'est-ce qui m'attirait, comment j'avais envie de le transformer, qu'est-ce que j'avais envie d'en faire en fait aussi de tout ça. Et voilà, et petit à petit, ça s'est fait. J'ai retrouvé un travail classique ici et en fait tout ce processus il s'est accompagné de en fait de sortie de zone de confort. Du moment où je suis sortie de ma zone de confort, j'ai fait que des sorties de zone de confort et qui étaient super positives. Tu vois, quand tu pars de Paris, que t'es dans ce monde de travail là, en plus c'était le digital et qu'on m'a dit tu retrouveras jamais à Montpellier.
Ouais.
Tu retrouveras jamais, tu auras jamais un salaire qui te correspond, etc. En fait, tout ça, j'écoutais plus quoi. C'était comme si, d'un moment à un autre, j'avais décidé d'être juste responsable de ma propre destinée quoi, en fait. Hein.
Ouais. Oui, puis parce que peut-être que ça répondait plus à des valeurs aussi chez toi, tout ça, et que du coup, enfin, presque au fond de toi, bah tant pis si tu retrouvais pas ça, parce que je crois que si tu partais, c'était pas pour retrouver la même chose là où t'allais.
Ouais, exactement. Mais je savais pas ce que j'allais trouver, tu vois. Il y avait aussi ce côté-là, de l'inconnu et tout, mais exactement. Voilà, ça serait différent, ça serait autre chose, mais ça serait une nouvelle expérience. Et du coup, j'ai trouvé un boulot ici. Et quand j'ai commencé à vouloir... Déjà, mes amis ont été très présents, c'est-à-dire que pour mon anniversaire, c'était mes 25 ans, donc je donnais déjà des cours un peu en off. Pour mes 25 ans, ils m'ont offert vraiment le budget pour m'offrir une formation de professeur de yoga. Donc ça c'était
trop chou,
trop mignon comme cadeau, tu vois. Ça aussi c'est discutable, les formations hein, tout est discutable, mais dans ce parcours en tout cas pour moi je me disais, même si j'avais eu des profs super en yoga et des profs qui m'ont aussi donné l'envie hein, c'est les professeurs que j'ai rencontrés qui m'ont donné les envies d'enseigner, bon, quand tu changes d'univers comme ça, tu dis il faut quelque chose qui te valide, quoi. En tout cas, moi, j'étais encore là-dedans à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé une formation de yoga qui était répartie sur 6 mois. C'était un 200 heures classique. À côté de ça, je suis partie dans plein de directions. Hein. Je me suis dit, bon, je vais observer ce qui se passe au niveau de la naturopathie. À l'époque non plus, c'était pas encore beaucoup développé. J'ai fait un week-end, j'ai arrêté là. Ça m'a pas du tout plu. Je trouvais que c'était trop dense pour des formations de 2 ans. Je trouvais ça trop léger. Je me suis dit, bon, je me sens pas du tout. Je vais rester sur le yoga et je vais vraiment me focaliser sur le yoga. Et c'est quelque chose déjà qui est très, très ample. Et je pense que je vais y trouver beaucoup de choses. Et c'était même si ça faisait quelques années que je pratiquais, c'était pour moi le début de l'aventure. Quoi.
Tu voulais vraiment t'y mettre à fond, enfin, tu voulais vraiment creuser le sujet à fond, quoi.
Ouais. Ouais, ouais. Et surtout, je me sentais. J'étais encore dans l'apprentissage, même à ce moment-là, et je le suis encore aujourd'hui, et je le serai encore demain. Il y a tellement de choses à explorer. Puis au yoga, aujourd'hui, ça peut tout et rien dire, en fait. Voilà, c'est toujours pareil, ce que t'en fais, qui est plus important. Donc, j'ai fait cette formation, c'était une expérience de fou. J'ai rencontré au-delà, bon, évidemment, de l'encadrante qui était super. Je fais un petit coucou à Laïla si elle passe par là. Les filles qui étaient pendant cette formation, j'ai eu un groupe super. J'ai rencontré des femmes, des univers différents, des âges différents. Et on a fait, dans cette formation, on a fait une semaine de silence qui était super. De silence au Maroc. Donc en plus, je retournais sur mes chemins. J'ai pas choisi, hein.
C'était... Mais la vie est bien faite. La vie nous amène les épreuves dont on doit s'affranchir. Jusqu'à ce qu'on s'en affranchisse. Et ça peut durer toute la vie, hein.
Ouais, là, t'es...
Mais du coup, donc t'es retournée au Maroc.
Ouais.
En silence.
Attends,
t'as
vivant.
Un peu souffert en silence aussi la première fois, j'ai envie de te dire, hein, parce que je sens que t'as tenu à ce que ton compagnon fasse ce voyage, et du coup t'étais un peu bon.
Là t'étais en silence, mais finalement tu t'es beaucoup,
mais c'était pour toi.
Beaucoup plus écoutée que
c'était pour toi.
Exactement. Ouais. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'appréhension en plus du silence, parce qu'il y a aussi les autres personnes qui vivaient ces expériences. Mes amis ont vécu toutes ces expériences avec moi. Et à l'époque, je vous le dis, ça n'existait pas. Tu pars en silence. Ah ouais, mais t'as pas peur de plus jamais avoir envie de parler après. Tu sais, tu partais déjà, tu disais ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Et en fait, c'était génial parce que je suis partie avec deux femmes que j'adore et que j'ai encore dans ma vie aujourd'hui. Et on s'est retrouvées dans une chambre, sans porte, aux toilettes, sans porte à la salle de bain, tout ça en silence. Ce qui a été très agréable, c'est de comprendre que tu peux être avec n'importe qui de manière confortable, si tu l'es avec toi-même. Dans les pires situations. Enfin, je veux dire, je me souviens d'un matin, trop drôle, où une de mes camarades de chambre se lève, va aux toilettes, et puis lâche un P, quoi, tu vois. Et on était en silence. Donc, je veux dire, tu peux rien faire à ce moment.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Voilà. Mais on a ri à deux moments différents sans se regarder, mais on a ri, quoi. Et c'était tu vois, c'était un moment hyper humain, en fait.
Bien sûr.
Et j'avais besoin de ça. De quelque chose d'humain et plus de ces protocoles d'entreprise, de schémas, de voilà. Et là, j'ai vécu une super aventure. Je continue d'enseigner à côté.
Je comprends que ça vous ait rapproché.
Ah bah oui,
avec...
ça rapproche beaucoup. Sans parler. Et c'est là aussi où tu peux le retrouver avec des animaux.
Bien sûr.
Hein, je veux dire, je sais pas Mathilde, toi si tu as, mais Léa, je sais que tu as Gaïa...
J'ai un petit chat noir, Mocha, il s'appelle. Ouais, si tu veux tout
bien.
Savoir.
Avec les animaux, il n'y a pas besoin de parler. Pourtant, il
bien
se passe
sûr.
Beaucoup de choses.
C'est incroyable.
Et voilà. Et ça, c'est, voilà, c'est des trucs, c'est poétique, quoi, dans le quotidien.
Du coup, tu as vraiment fait l'expérience de te parler sans parler. Enfin, et de parler aux autres sans parler.
Ouais. Mmh.
Et de
respecter leur
silence. Il y a
beaucoup
de choses qui peuvent se passer sans la parole. Bah, le non-verbal, déjà, c'est incroyable.
70% de notre communication, hein, ça passe par là, bien sûr.
Et puis du coup, tu deviens ultra éveillé, je veux dire, sans drogue, sans alcool. T'es là et tout te paraît incroyable. Bon, c'est pour ça aussi que dans le yoga, on utilise beaucoup des mots très forts, comme voilà, c'est des expériences extraordinaires, on se reconnecte. Bon, voilà, après, il faut les utiliser à bon escient. Mais c'est vrai qu'à certains moments, tu reconnectes avec des choses qui sont si simples et si basiques, mais qui sont magiques, quoi. C'est ce qui fait la vie. Donc voilà, c'était une vachement chouette expérience. Et après, bah...
T'es devenue prof
Tout de suite, je me suis mis à mon compte. Tout de suite, j'ai été aussi indépendante. J'ai un peu travaillé en studio. Mais très rapidement, j'ai voulu... En fait, j'ai voulu me montrer, est-ce que c'est possible ou pas. Tout de suite, tu vois, plus le temps, en fait.
Ouais.
Maintenant, je sais ce que je veux. Il y a des choses que j'ai envie de vivre. Il y en a que j'ai plus envie de vivre. Donc, je teste les choses.
C'est ça.
Et puis, ça devient agréable ou désagréable. Mais c'est une expérience.
Comment est-ce que tu as vécu et tu vis encore ce statut, entre guillemets, du professeur, tu vois, de l'enseignement ? Parce que je trouve que c'est un statut qui peut avoir une vision, une connotation, parce qu'on a eu l'école et parce qu'il y a beaucoup ce truc du sachant et de celui qui apprend, etc. J'ai un peu la réponse parce qu'on se connaît, mais ça m'intéresse d'avoir ta vision là-dessus sur ce statut particulier qui peut amener... des réflexions particulières de ton côté, mais aussi, j'imagine, aussi du côté des élèves, en fait.
C'est un super sujet. Et c'est un sujet qui est de plus en plus abordé. Et je trouve que c'est vachement important. Parce que dans le yoga, il y a ce truc de... Et je pense comme n'importe quelle personne qui est accompagnante, de... faire la différence entre sauver la personne et l'amener sur la découverte de son propre cheminement et d'apprendre à se connaître elle. Et donc ça a été, moi j'ai été super bien, enfin en dehors de même de la formation, les professeurs que j'ai eu ont été des professeurs très responsables par rapport à ça. Donc j'ai tout de suite, j'ai eu cette distance de ce qui a été bon pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre. Et cette expérience dans le yoga, ok, j'en suis convaincue, c'est pour ça que je travaille dans le yoga. Je suis convaincue des choses que ça peut apporter. Mais est-ce que ce sera amené et la personne va le vivre de la même façon ? Ça, c'est son propre cheminement. J'ouvre des portes, j'accompagne, je soutiens. Mais par contre, je ne suis pas psychologue. Et là, en ce moment, d'ailleurs, depuis le Covid, je trouve qu'il y a sur le yoga, sur le bien-être, sur la naturopathie, sur plein de choses, des choses très graves qui se passent. Sur des encadrants, et je veux dire même en tant qu'encadrant, et tu le vois dans, même chez les enseignants, ma petite sœur elle est enseignante depuis un an, t'es tout le temps en train de te poser des questions en tant qu'accompagnant. C'est normal de savoir est-ce que c'est juste, est-ce que le cadre est bien posé à ce moment-là, voilà, et c'est très bien, mais il y a quand même des choses à pas aborder, enfin moi je trouve à pas aborder, voilà. Je suis professeure de yoga, je fais de l'hygiène de vie, c'est de la mobilité. Des fois on parle un peu de philosophie, on parle de l'histoire. Il n'y a jamais de croyance qui est amenée.
Mais ça, même c'est quand tu es psychologue, j'ai envie de te dire, tout à l'heure, tu as dit quelque chose de... Tu as dit accompagner quelqu'un sur le chemin de la connaissance de lui.
Oui.
Sachant que, de toute façon, la personne, même si elle est dans « je dois apprendre mon fonctionnement », elle en sait quand même trois fois... Enfin, elle est la personne qui se connaît le mieux, toute façon. Et on a souvent... Parce que, en fait, c'est comme ça dès le début. Hein, par exemple, même quand, dans la façon dont on éduque les enfants aujourd'hui, on se place déjà comme « je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi ».
Oui, bien sûr.
Et c'est des choses qui se retranscrivent aussi plus tard, quand on accompagne des personnes, où on a tendance à se positionner en « je sais mieux que toi ». Ce qui est bon pour toi. Et ça, en fait, c'est la plus grave des dérives, c'est-à-dire que on a des connaissances. Bah, par exemple, moi, j'ai des connaissances en psychologie. Voilà, je suis spécialiste en psychologie, donc je connais les fonctionnements, je connais plein de choses à ce niveau-là. J'ai des connaissances en psychopathologie, mais je suis experte de ça, de connaissances en psychologie et d'outils que je peux apporter. Par contre, la personne en face de moi est toujours experte d'elle-même. Et en fait, personne n'est personne pour dire c'est, ça, c'est mieux pour toi. Ça, c'est mieux pour toi. Et en fait, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et franchement, c'est, je pense, la plus grosse des dérives, et c'est ce que tu décris, hein, de toute façon.
Bien sûr.
Quand tu fais du bien-être, c'est que les gens prennent leur expérience personnelle, en font des généralités, et les transposent aux autres. Et du coup, ben là, tu, justement, au lieu d'accompagner les gens sur leur propre chemin, tu les enlèves de leur chemin pour les amener sur le tien. Mais en fait...
Oui, mais complètement. Mais je pense qu'il y a eu... En fait, c'est souvent quand il y a des grosses prises de conscience, entre guillemets, sur des sujets. Et là, je pense que le Covid... Enfin, en tout cas, ça a placé le sujet de la santé mentale de façon considérable. Je veux dire, on l'a vu. C'est la première fois qu'on en parle autant, quand même. Et c'est pas que nous, parce qu'on... Enfin, tu vois, on est un peu biaisés, forcément, parce qu'on est dedans. Oui, mais quand même, je trouve qu'il y a une considération. Et du coup... Comme n'importe quel sujet qui devient important, et ben t'as tout le temps des dérives, déjà des dérives de business, hein, il faut le dire, et puis aussi des personnes qui y voient leur propre thérapie à travers le fait d'incarner l'aide à l'autre, le fait d'incarner même le fait de le sauvetage. T'as beaucoup ce truc-là de, tu vois, qui se crée de petits groupes, de petits clans, de petits courants, de petits et c'est dangereux parce que bien sûr tu vas au-delà pour moi, tu vois, on parlait bienveillance, compassion dans un autre épisode qu'on a enregistré, et c'est ça aussi, c'est-à-dire que tu peux être là avec toute la bienveillance de ce que tu veux apporter, etc., et comme tu le dis pour le yoga, mais tu ne peux pas sauver. Tu peux tendre la main, mais tu vois, tu ne peux pas sauver l'autre.
Et puis tu peux pas prétendre détenir la vérité, en fait.
C'est ça.
Surtout, tu vois.
Ouais,
complètement. Enfin, il y a des trucs qu'on sait, et d'accord. Enfin, il y a des trucs qu'on sait.
Ouais. Mais. T'as la connaissance, mais t'as pas
la vie interne et psychique de quelqu'un, tu la sais pas. En fait, tu la connais pas. Et c'est lui qui va te l'apporter, en fait.
Oui, et puis dans ces pratiques-là, je trouve qu'il y a trop de décoration, en fait. Je veux dire, la pratique en elle-même, elle suffit. Tu vois ce que je veux dire ? Tu viens à ton cours de yoga, tu bouges, ça suffit. Tu viens pour faire une relaxation avec des bols et des gongs, ça suffit. Alors, ok, tu peux sortir des cartes, si tu veux, des interprétations. Mais en vrai, juste le mouvement, il suffit. Et le fait de l'intégrer tous les jours, ça suffit. Après, que tu y mettes ta patte, ta personnalité en tant que prof ou en tant qu'accompagnant. Je trouve ça super, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a peut-être des personnes qui apprécient, etc.
On est notre propre outil de travail, donc on est là avec tout ce qu'on représente nous aussi.
Exactement. Et j'échange aujourd'hui avec même des gens, des gens qui font, je veux dire, des pratiques qui sont similaires aux miennes, tu vois, sur l'acro-yoga ou sur plein de choses, ou sur les bols, ou sur des chants de mantra, etc. Parfois dans ces discussions, et parfois dans les cours de yoga, même que je prends encore. Ça m'arrive de prendre des cours de yoga à Paris, d'en prendre à Montpellier et tout. Des fois, il y a vraiment... On veut mettre le cadre de l'émotion. Tu sais, on veut que ça provoque de l'émotion pour provoquer de l'émotion. Mais en fait, il n'y a pas besoin. La pratique, déjà, elle en provoquera. Et pas besoin... Enfin, des fois, c'est un peu... Je trouve que c'est un peu poussé. Voilà, moi je...
Toi, c'est en plus dans le côté minimaliste du...
Je trouve que, en fait, la pratique, elle suffit. La personne, elle va venir, et puis des fois, c'est comme, je sais pas, quand elle fait son trajet tous les jours en train de marcher, il y a des jours, elle sera contente, il y a des jours, elle sera en colère, il y a des jours, elle sera en train de pleurer, il y a des jours, voilà. Il n'y a pas forcément besoin de mettre une petite musique de piano qui ferait chialer n'importe qui, en fait, tu vois, voilà, il y a... Je trouve qu'il y a cet équilibre à trouver et puis cette responsabilité de pouvoir rediriger des personnes. Je vous parlais du Covid parce que depuis le Covid, je trouve qu'il y a des personnes qui viennent en cours de yoga qui ont été redirigées par le milieu médical. Parce que le yoga, c'est super, ça peut vous aider sur l'anxiété et tout. Je me retrouve parfois avec des personnes qui viennent d'être diagnostiquées bipolaires, par exemple. Moi, je ne viens absolument pas du milieu médical, ni psychologique, ni psychothérapie, enfin, rien médical. Donc, ça me pose des questions. Je me dis, OK, comment ça va se passer ? Viens d'abord une première séance, on voit, est-ce que je me le sens ou je ne me le sens pas ? Je pense aussi qu'en tant que personne, c'est à nous, en tant qu'accompagnants, de savoir si c'est OK pour nous ou pas.
Bien sûr.
Là, c'est la première fois cette année que je refuse une retraite à une personne. Et elle a très bien compris. Bien sûr, tu l'amènes de façon... Mais je l'ai refusé parce que c'était pas le moment pour elle et que moi, je me sentais pas de gérer ça.
Bien sûr.
Tu vois.
Mais en fait, tu te poses des limites.
Ce que tu décris là, c'est une question d'éthique, en fait.
C'est une question d'éthique.
Pour moi, tu vois ce que je veux dire. Beaucoup de choses seraient différentes si cette éthique-là, elle était respectée. À partir du moment où tu es dans l'accompagnement de personnes, à partir du moment où tu es avec des humains, tu te dois une éthique irréprochable, c'est-à-dire que si tu te sens pas, je veux dire, à un moment donné, il faut sortir aussi de l'ego et de machin, c'est-à-dire que tu te sens pas, tu fais passer quoi, tu fais passer de la prise en charge, tu fais passer l'accompagnement,
chacun son métier,
voilà, tu vois,
moi
c'est-à-dire que, et puis même au cœur de son métier, enfin, moi ça m'est déjà arrivé de sur des choses où je me sens pas experte et que je sens que je vais manquer d'outils ou de connaissances pour aider la personne. Je vais pas lui dire, bon, vas-y, viens, on verra ce qu'on peut faire pour toi. Non, enfin, c'est la santé mentale des gens.
Mais tu vois, dans les formations, il n'y a pas tout ce pan-là, tu vois. Et j'adore le yoga, et j'adore l'univers. Et je suis prête à tester plein de choses, moi, dans la vie. Hein. Vraiment, les choses les plus perchées au monde et les choses les plus terre-à-terre. Mais je les teste sur moi, il y a des trucs,
exactement.
Voilà.
Exactement.
Et tu vois, le truc de, par exemple, même dans la surformation, aujourd'hui, c'est très accessible. Ouais. Donc, tu te formes professeur de yoga, puis après, tu te spécialises dans la cérémonie de cacao sacré, tu vas aller faire du tissage pour faire des bâtons de sauge. Enfin, je veux dire, tout, du coup, devient formation et rien devient dans l'expérience. Et ça cultive un peu, même dans ce monde du bien-être, ce truc du vide, tu vois, l'art du rien, en fait, et qui devient parfois même des pratiques qui sont superficielles, où ça va moins en profondeur, et où il y a de la consommation. Et dans le yoga, aujourd'hui, il y a de la consommation.
Bien sûr.
Et dans le comportement...
Mais dans le bien-être, hein, toi, c'est...
Oui, il y a de la consommation.
Il y a tellement de tout et de rien.
En fait, oui, mais moi je suis assez d'accord avec ton discours qui dit qu'à partir du moment où ça te concerne que toi, moi je suis un peu comme toi, je peux avoir à un moment donné être très intéressée par quelque chose de complètement perché aux yeux de plein de personnes et à côté de ça être très intéressée par quelque chose de beaucoup plus scientifique, beaucoup plus terre à terre et tout. Mais ça pour moi il n'y a pas de problème parce que ça me concerne et que je n'applique pas cette vérité ou les enseignements que j'ai pu en tirer ou pas à une personne qui viendrait avec une demande, avec une problématique, avec une pathologie, etc. Là, pour moi, il y a un réel souci. Par contre, quand c'est une démarche individuelle, que moi, je puisse avoir accès à des informations, etc., super. Enfin, je veux dire, c'est quand même... On est dans une époque où on a un accès à l'information. Alors, à vérifier, parce que parfois, pas forcément la meilleure, mais c'est un autre sujet. En tout cas, on a cette possibilité-là de se dire, ce n'est pas parce que, par déterminisme, je suis dans cette voie, quel est mon métier, voilà. Enfin, je veux dire, moi, je sors du bac, j'ai pas de diplôme. Et aujourd'hui, j'ai une société qui marche très bien, avec plusieurs employés, dans la communication. Enfin, je veux dire, et la légitimité, je me la dois à moi-même. J'attends que personne me trouve légitime. Par contre, est-ce que demain, je vais me dire, bah voilà, je vais être, j'en sais rien, professeur des réseaux sociaux, etc. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux dire, et quelqu'un viendrait me dire, moi, mon rêve, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Jamais, je me dirais, bah super, viens, je te prends, je te forme, etc. Non, parce que pour moi, c'est pas mon truc. Par contre, est-ce que j'ai envie de pouvoir avoir accès à des connaissances dans des sujets, tu vois, qui ne sont pas mes sujets de prédilection? Oui, et c'est super, parce que tu vois, ce qu'on échange là, on vient de trois univers différents et on peut créer des choses. Par contre, à partir du moment où ça touche à la santé, oui, là, c'est un problème. Mais je pense qu'on en revient souvent au truc de se dire, ça ne se passerait pas ou beaucoup moins en ce qui concerne tout ce qui est, tu vois, santé, on va dire, du corps, on va dire, dans la médecine plus allopathique, etc. Jamais tu verras un boucher qui a envie de se former à la chirurgie, et puis il arrive et il se dit, bah moi, vous savez, quand même, enfin, sur mes cochons, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est, mais parce que...
J'ai déjà disséqué, monsieur.
Voilà, je sais faire, donc... Mais parce qu'il y a, la considération de la, oui, santé mentale, c'est
en fait, c'est nouveau, tellement... C'est, tout le monde, même, tu vois, au niveau du jargon et tout, alors moi, je suis pas du tout pour garder le jargon secret, psychologue, etc., mais il y a plein de mots aujourd'hui qui sont utilisés à tort et à travers, qui sont complètement tombés dans le truc un peu quotidien. Enfin, je veux dire, le terme bipolaire, on l'entend à tout et à travers. Ouais, elle est un peu bipolaire, oui, elle est un peu bipolaire, tu vois. Le terme de psychose, tu le vois même dans les journaux, oui, psychose dans la ville de machin, tu vois. Enfin, c'est des jargons qui sont tombés un peu dans le machin, donc en fait, tu peux vite faire de la psychologie de comptoir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tout le monde, enfin, moi, j'ai déjà entendu des gens qui disent... Ouais, bah, je suis un peu le psychologue de mes amis, quoi, tu vois, parce que quoi, du coup, parce que du coup, t'as écouté, t'étais dans le... Mais non, en fait, enfin, je pense que l'expérience est importante, mais par contre, l'expérience ne te rend pas, parfois, enfin, ne te fait pas psychologue, par exemple.
Mais non,
tu vois,
mais
si,
parce que tu traites des personnes qui ont des psychopathologies, bah oui, parce que la... en fait.
Oui, c'est ça, c'est de la santé, et qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire comme si il n'y avait pas de connaissances scientifiques sur des sujets et des choses à apprendre là-dessus. Tu peux pas faire n'importe quoi avec
c'est
ça.
C'est pour ça qu'en tant que professeur de yoga, enfin, le fait que tu arrives à te mettre des limites, enfin, te mettre, parce qu'en fait, je pense que quand tu mets des limites à l'autre, tu te mets avant tout des limites à toi-même.
Bien sûr.
Et tu te protèges d'une certaine façon. Je te connais assez pour savoir que tu le fais de façon, tu vois, avec tout l'amour et la bienveillance que tu portes à tes élèves dans l'ensemble, mais que c'est nécessaire. Et toi, comment tu vois cette image du yoga? Alors d'un autre côté, il y a plus le côté, parce qu'il y a peut-être une part un peu perchée, mais une part, moi, je trouve surtout sur les réseaux sociaux, très performance, paraître, limite fitness, enfin, tu vois ce que je veux dire, dans le côté du culte de la souplesse du corps de celui ou celle qui va faire les plus belles acrobaties, les plus belles photos, enfin, tu vois ce que je veux dire,
très instagrammable, hein, le yoga.
Bah, en fait, pas du tout. Enfin, oui, non, et non,
c'était, enfin, je le pense pas quand je le dis, c'était en mode
non, mais des fois en cours, je t'assure qu'on est vraiment pas Instagram, mais
non, je te rassure, moi non plus, toujours, c'est pas la forme qui compte, hein, c'est plutôt le fond.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est un autre sujet, et je pense que c'est un sujet qui va évoluer avec le temps, et que, comme toute pratique qui prend de l'ampleur à un moment donné, il y a des petites dérives, et il y a des petites interprétations et des choses, et voilà, des dérives même au niveau de l'image que ça renvoie. Ça, c'est ce qui fait un petit peu défaut au yoga. Hein. C'est pour ça que je parlais de consumérisme avant, et du fait que ça se voit qu'on consomme le bien-être aujourd'hui. Je veux dire, t'achètes une pierre pour te protéger, tu vas faire de la respiration, ah oui, ça te déstresse. Mais la question que tout le monde devrait se poser, c'est pourquoi tu le fais?
Ouais.
Voilà.
C'est la première question qu'on pose dans Take Care, quand même.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, parce que... dans les questions, quand on a voulu formuler
pourquoi t'es là?
Pourquoi t'es là? Avant même de te parler de ce qu'on va faire, pourquoi t'es là? Et qu'est-ce que...
C'est quoi tes... qu'est-ce que ça va te changer à ta vie, en fait? C'est ça. Parce que juste faire pour faire, bon, ben, mais c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qui va se passer avant? Qu'est-ce qui va se passer après, a priori?
Et c'est vrai que tu me disais un truc au début, quand on réfléchissait à tout ça, qui est hyper vrai. Quand quelqu'un dit, ah, là, je suis stressée, je suis trop stressée. Ok, mais si t'étais plus stressée, qu'est-ce que tu ferais plus dans ta vie? Ce serait quoi le changement? Tu vois ça. Et t'as raison, je pense que ça passe par le questionnement.
Donc, le pourquoi tu le fais? Et sur les réseaux sociaux, il y a cette image beaucoup du yoga, de la performance, etc. Mais il faut vraiment prendre conscience que beaucoup de personnes sont arrivées par le yoga en venant soit de la GRS, soit de la danse, soit, je sais pas moi, du cirque, de la contorsion. Donc, il y a aussi, je pense... Mais bon, pour moi, ça accompagne un peu cette culture du vide qui est en ce moment, et où on se pose un peu moins de questions, ou les choses... Voilà. Il faut toujours avoir cet esprit un petit peu critique et cette curiosité d'aller voir aussi d'autres choses. Ce que j'aime bien dire aux élèves, c'est qu'il y a un yoga qui correspond à chaque personne. Mmh. Je veux dire, même si tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans le yoga, il ne faut pas fermer de porte parce que, bon, moi, je ne viens pas de la GRS, je ne viens pas du milieu sportif. Et aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose dans le yoga qui me permet d'avoir une santé, une hygiène de vie qui est hyper agréable. Je veux dire, je resterai quelqu'un d'anxieux toute ma vie. c'est ma personnalité, je suis comme ça, ça ne changera pas. Mais par contre, je la vis différemment, cette anxiété, tu vois. Je la transforme même. Donc, cette image qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est, en fait, c'est que du... Voilà, c'est l'habit, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on juge beaucoup les gens sur leur habit. On dit l'habit ne fait pas le moine. Mais aujourd'hui, dans notre société...
Oui, bien sûr.
Voilà.
Le regard de l'autre...
Le regard de l'autre, c'est... Notre société est basée là-dessus. Mais ayez et gardez en tête que beaucoup de gens qui viennent de ce milieu-là... Bon, il y en a qui viennent et qui ont fait que du yoga, bien sûr. Mais il y en a beaucoup qui viennent de la GRS. Et je veux dire, c'est super d'être hyper souple comme un chamallow. Mais si tu vis rien dans ton corps, je vois des gens, ils sont très très souples. Hein. Mais il n'y a pas de vie dedans. Ouais. Ça circule pas. Donc...
Et puis, est-ce que vraiment la souplesse, c'est un objectif à atteindre ?
Exactement.
En fait, c'est toujours ce truc-là de, est-ce que tu es obligé d'engager quelque chose par objectif ?
Exactement.
Et non pas par expérience, comme tu disais tout à l'heure, et le fait juste de tester des choses.
Ouais, en fait,
expérimenter.
Je parle de
mais
souplesse.
Ce qui peut être un objectif en soi, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, on a toujours besoin d'un espèce de but à atteindre, mais le but ne doit pas être forcément corrélé à de la performance, en fait.
Ouais, mais après,
c'est plutôt ça, tu vois.
Ça dépend comment tu le places comme but, tu vois ce que je veux dire ?
Oui, tu pourrais l'avoir en performance. Je veux dire, tu peux te mettre des objectifs. Oui,
tu peux aussi le voir comme de la performance. Je veux dire, tu peux tout à fait avoir un objectif et un but de vivre une expérience. Voilà.
Oui, sans, oui non, mais si t'as envie de mettre des mots en disant oui, c'est un objectif, mais bon,
en
moi,
fait,
je
le plus,
l'expérience.
Le
mais...
plus dommage là-dedans, ça serait juste que certaines personnes viennent faire du yoga avec de la pression de faire du yoga. Voilà, ouais. Ça serait vraiment débile.
Ou de pas arriver à...
Ou de pas arriver à et de se mettre de la pression pour ça. Juste si un cours de yoga... Vous vous sentez pas dedans, c'est comme si vous allez voir un gynéco qui vous correspond pas. Changez de cours de yoga. C'est pas fait pour vous, c'est pas celui-là qui vous correspond. Après, qu'il y ait des gens qui utilisent le yoga pour des préparations de sport ou qui le voient comme un sport, j'ai envie de vous dire, c'est pareil, c'est chacun en fait ce qu'il veut. Tu vois. Maintenant, cette image-là, elle dépeint un peu sur ce qu'est le yoga, parce que je parle beaucoup de souplesse, parce que les gens, la première chose qu'ils disent, c'est par contre, mais je suis pas du tout souple. Mais justement, c'est pour ça qu'il faudrait venir faire du yoga, pour voir comment tu peux aider à étirer ton corps et qu'il se sente un peu mieux. Pas forcément rentrer avec le pied derrière la tête, ça on s'en fout complètement. Et d'ailleurs, ça n'apportera aucune valeur ajoutée à la personne que tu es.
Exactement. Oui, mais c'est ça, mais ce n'est pas corrélé à ta valeur. Ça, c'est...
Pas
justement,
du tout.
Comment tu, pour tes élèves, en termes d'outils, pour eux comme pour toi, mais comment est-ce que tu les accompagnes sur ce chemin tu vois, de confiance en eux ?
Ouais. Bah, déjà dans l'ambiance et l'atmosphère qu'il y a dans les cours, parce qu'il y a des gens de 9 ans à 70 ans. Donc déjà, je veux dire, quand t'as 50 ans et que t'arrives dans une classe et que tout est mélangé et tout, bah, je veux dire, il y a moins d'inquiétude. Que, voilà. Après, ça dépend. Hein. Je pense que tu reçois les personnes, on dit que t'as un peu le public que tu mérites, mais je veux dire, en tout cas, c'était important pour moi de rendre accessible ça. Donc du coup, si tu veux, il y a tous les âges, toutes les morphologies, hommes, femmes, j'ai de plus en plus d'hommes. J'ai un cours où il y a à peu près 50% d'hommes et 50% de femmes, donc c'est quand même super chouette. Bah, c'est qu'en fait, il y a des alternatives dans toutes les postures. Tu vois, j'ai des personnes qui viennent qui peuvent pas se placer accroupies. Bah, on a trouvé des moyens pour décompresser les genoux. C'est des petits cours, voilà, on est entre 10 et 12, donc moi ça me permet d'avoir une approche.
Et tu fais avec la diversité
qui est
humaine,
en fait. Ouais, voilà. Enfin, il me semble que le yoga c'est fait pour ça, tu vois. Donc ça m'aurait été bizarre de pas le rendre accessible ou de ne faire que du yoga très dynamique pour un certain point. Même quand c'est dynamique, en réalité... c'est posé. Donc ce qui fait je pense que ce qui fait qu'il y ait des personnes multi-humains qui viennent, c'est qu'il y a aussi un moment on discute, on échange sur ça, tu vois. T'as jamais fait de yoga, ok, est-ce que t'as mal quelque part, ok, voilà, il y a un échange. C'est vrai que ça peut t'arriver d'arriver dans des endroits, dans le yoga, dans le monde du bien-être, où ben, c'est comme Ikea, quoi. Je veux dire, tu viens, t'es dans une foule de 30 personnes, tu pratiques, mais tu apprendras des choses. T'apprendras peut-être, du coup, à être invisible dans une grande foule, même s'il y a beaucoup de pratiquants de yoga. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté un petit peu... En fait, dans chaque situation, tu pourras en tirer du...
Tu pioches.
Tu pourrais piocher.
Bon pour toi.
Tu pourrais décider de venir à un cours de yoga et pas parler. Décider de venir à un cours de yoga et que ce soit aussi un moment où tu rencontres des élèves qui sont comme toi et qui viennent toutes les semaines. Enfin, c'est pareil, c'est ce que t'en fais. Et ouais, tu peux vivre plein d'expériences différentes. Donc, je pense qu'ils prennent confiance parce qu'ils savent qu'ils peuvent juste s'allonger pendant une heure s'ils veulent.
Ouais.
Et que c'est complètement, complètement toléré.
En fait, il y a une liberté, je trouve, dans tes cours qui est importante. C'est-à-dire que tu viens comme tu es. Un peu comme chez McDo, mais...
Eh oui, ils sont très forts.
C'est ça. Mais non, mais c'est vrai, il y a cette liberté d'être, en fait. C'est...
C'est ce que j'allais dire, mais c'est la liberté d'être soi.
Ouais. Ouais.
Mais il y a peu de lieux où on a vraiment la liberté d'être...
Complètement.
Enfin, il y a peu de lieux en soi, on peut le décider, soit, hein, mais là, tu offres un espace de non-jugement, tu vois, un espace assez inclusif, en fait, finalement.
Ouais.
Et du coup, forcément, ça amène à être beaucoup plus libre, vu qu'il n'y a pas de...
Ouais, je pense que les personnes qui sont là ont besoin de... Enfin, tu vois, sont là par besoin, et des personnes qui, au contraire, ont besoin du yoga comme une pratique sportive et technique, et voilà, le trouve ailleurs. Mais comme tu dis, je pense que moi, j'avais une image peut-être du yoga avant de connaître un peu inaccessible. Pourtant, j'ai fait de la danse des années, enfin voilà, mais je suis rentrée là-dedans, tu vois, dans le cadre du milieu professionnel en plus, où on avait un cours de yoga pendant un événement. Et je me suis dit, ah tiens, c'est sympa, c'est fun, voilà. Et après, je me suis dit, mais en fait... c'est beaucoup plus doux que ce que je pensais, parce que moi je supporte pas la statique, par exemple. Donc j'avais déjà fait d'autres pratiques, notamment parce que ma mère est prof de stretching postural, donc qui se fait dans la statique, et je ne supporte pas la statique. Moi j'ai les mains et les pieds qui se serrent, et j'aimais bien le yoga parce qu'en fait justement t'as pas ce truc là de te dire, oh là là, si je bouge je vais rater, tu sais, ce truc de je vais pas réussir, ou ça convient pas à la pratique que je suis en train d'exercer, quoi. Ça, c'est pas dans les codes. Et je pense que c'est, ouais, ce message qui est important à faire passer, de dire que si à un moment donné vous avez été intéressé, intrigué par le yoga, vous donnez la possibilité de trouver vraiment une pratique dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Ça veut pas dire que vous allez jamais sortir de votre zone de confort, hein, pas du tout,
c'est clair,
mais ça doit pas être dans la souffrance. Ça peut être désagréable, mais enfin désagréable, tu vois, souvent tu le dis dans tes cours,
inconfort et douleur,
ouais, hein. Inconfort et douleur, etc.
Douleur, on n'y va pas, inconfort, on y va, voilà. Ouais. C'est ce que tu disais, Mathilde, c'est effectivement, j'essaye de donner un espace qui est sans jugement, mais ça veut pas dire que certaines personnes à certains moments ne l'ont jamais ressenti, même dans mes cours,
bien
tu vois,
sûr,
ce que je veux dire, tout ça c'est un cheminement, en fait. Mais du moment où tu viens en te disant que le tapis de yoga... D'ailleurs, yoga, on pourrait le remplacer par le mot de la vie, en fait. C'est la vie pour moi. Juste expérimente sur un tapis ta façon d'aborder des choses, et ça te permet de voir peut-être des fois en dehors de ton tapis, ah tiens, je vois que quand j'ai peur au yoga, sur une posture qui me fait peur, ben moi j'ai tendance à rigoler, à fuir un petit peu. En fait, ça te donne des clés, c'est une exploration, quoi. En plus, bon, c'est rigolo, enfin, en tout cas ça peut l'être, donc je veux dire, c'est ludique. C'est une approche qui est ludique.
C'est une introspection d'une certaine façon.
Ouais, complètement.
On parlait, j'en parlais dans un des derniers lives qu'on a fait sur Take Care, sur les relations. Et le live, c'était prendre soin de ses relations. Et en fait, les trois quarts du live, je parle de la relation à soi-même. Parce que pour moi, c'est vrai qu'on a travaillé avec Mathilde là-dessus. C'était important pour nous de faire passer ce message. Et tu sais, il y a ce mot introspection, moi, il me faisait flipper. On l'entend beaucoup. Et je voyais ça comme un truc de « je vais devoir aller chercher en moi pendant longtemps. Hein, je vais aller devoir, tu vois, un peu ce côté de fouiller des trucs
dark,
fait. » Mais ouais, dark. Alors qu'en fait, le yoga, par exemple, a été un outil d'introspection merveilleux où simplement je me suis dit « tu es entre toi et toi-même, mais sans compétition, sans comparaison. Tu t'écoutes, tu vis. »
T'avais repris sur le côté jugement, justement, le fait que tu offres un espace de non-jugement. Et effectivement, les gens peuvent quand même juger. Mais je vais vous dire la vérité.
Ou se sentir jugé.
A priori, les personnes qui se jugent le plus, c'est vous-même. Enfin, vous êtes les personnes qui vous jugez le plus. Parce que généralement, ça se passe quand même dans notre tête, quoi.
Complètement.
C'est-à-dire qu'on peut interpréter des situations comme du jugement, alors qu'il n'y a aucun jugement de la part des autres. Mmh. Et généralement, c'est parce qu'on est déjà en train de se juger soi-même et de se dire, bah là, tu fais bien, là, tu fais pas bien, là, t'es comme ci, là, t'es comme ça, il y a de la comparaison, il y a machin. Donc, effectivement, être quand même... Mais d'où le fait de la relation à soi. Hein,
Mais c'est la connaissance. En fait, t'apprends à te connaître, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Tu te poses des questions comme tu rencontrerais quelqu'un à un café avec qui tu parlerais de la pluie, du beau temps, etc. Mais c'est des choses qu'on fait peu.
Qu'on fait beaucoup moins qu'avant.
Ouais.
Et en fait, tu vois, j'aime bien cette idée dans le yoga où, en fait, tu te reconnectes à des états que tu as perdus. Attends, quand tu commences le yoga et que tu te mets à quatre pattes et que tu lèves les fesses vers le ciel, excusez-moi, mais dans la société actuelle, ça ne t'arrive jamais. Ouais. Et la première fois, tu dis, tout le monde s'en fout, personne ne te regarde, hein, mais tu dis, pourquoi je ne suis pas bien, pourquoi je ne suis pas à l'aise.
Ouais. Mais même la position de l'enfant, tu vois,
ouais.
Cet état de recroquevillement, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais rien que, tu vois, dans des positions quand... Bah, qui sont depuis la nuit des temps une position quand même fœtale, enfin dans laquelle tu nais, enfin tu es dans ton, bah, c'est fou, ouais. Parce que je veux dire, jamais de ta vie tu, enfin a priori tu, dans ta journée tu te mets en boule et tu
vois. Après le truc à, ouais,
si, moi je travaille comme ça.
C'est donc ça le secret.
Après le truc à retenir, c'est que je pense que ça arrange pas tout, mais ça permet parfois de faire un pas de côté pour avoir le recul et observer que ben des fois c'est pas obligé que ça soit toujours dans la douleur le yoga, et qu'on soit obligé d'aller dans des trucs douloureux, dans des émotions douloureuses. Mmh. Des fois il y a des séances, elles sont super joyeuses, quoi. Mmh. Et puis c'est pas grave si on prend un fou rire sur un truc. Mmh. C'est,
mais pour moi c'est un vrai outil, quoi. Ouais. Ça veut dire que parmi tout, on a souvent tendance à se dire je prends une chose et je fais cette chose-là. Mais en fait, on peut se saisir du yoga, d'autres choses. Et toutes ces choses-là peuvent nous faire du bien. Mais pour moi, c'est un panel d'outils qui s'offre à nous. Et c'est quel est celui qui va nous convenir le mieux. Sachant qu'au sein d'une même pratique, donc au sein même du yoga, il y a plusieurs outils aussi. Tu vois ce que je veux dire ?
Exactement. Ouais. Ouais, il y a plusieurs outils et c'est une quête sans fin. Là, je suis en formation en ce moment sur de la yoga thérapie, donc avec un médecin, parce que c'est quelque chose qui me manquait. Je vais pas du tout, il y a des trucs à prendre et des trucs à pas prendre, et que je prendrai et certaines que je garderai, mais ça te permet d'avoir aussi d'autres moyens aussi pour l'adapter, pour accompagner, etc. Et on voit sur plein de sujets, sur l'endométriose en ce moment avec le yoga, ça explose, mais au final il y a pas beaucoup de recherches encore aujourd'hui.
Ouais non, c'est des débuts.
Donc faut pas trop le charger non plus de voir qu'il a pas encore accompli, quoi. Je pense que voilà, ça va être un outil et c'est bien que ça se soit beaucoup développé. Maintenant on va voir comment ça évolue, mais c'est la responsabilité des encadrants aussi de poser des cadres. Et demain, si c'était un peu plus encadré par l'État, je pense que moi j'y verrais aucun inconvénient personnellement par rapport à ce que je vois dans le monde du bien-être, quoi.
Ouais. Ah bah je suis complètement d'accord.
Ouais. Merci beaucoup, Paola.
Merci, Paola.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce super épisode et on vous dit
à la semaine prochaine.
N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute.
À bientôt.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.